Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et des entrepreneurs de Bordeaux et sa région. Je suis Théo Robache, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Et bienvenue dans ce format que j'ai créé pour donner la parole à ces jeunes pousses, ces personnes qui viennent de se lancer dans l'aventure et qui nous partagent au micro du Pompon leurs projets. Pour ce 6e épisode des Jeunes Pousses, j'ai le plaisir de recevoir Louise Lespard de La Clé des Champs. Louise est podcasteuse, elle interviewe des actrices et des acteurs du milieu de l'agriculture afin de nous faire découvrir leur vie, leur réalité. Elle est en quelque sorte le trait d'union entre la ville et les champs. Un épisode hyper sympa avec Louise qui, vous allez voir, développe son activité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Louise.
Salut Théo.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ah, merci à toi, je suis trop contente d'être là.
Bah, moi aussi, je suis ravie de recevoir une podcasteuse sur Le Pompon. Pour une fois, tu vas prendre l'autre côté.
Ouais,
tu
carrément.
De l'autre côté.
Ça fait bizarre pour rien te cacher.
C'est chouette, je suis très content. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Je suis Louise Lespard, tu l'as dit, j'anime le podcast La Clé des Champs. Donc, je pars à la rencontre des agriculteurs partout en France pour que les citadins puissent mieux comprendre leur parcours, leur quotidien, leur motivation.
Ouais, parfait, très chouette. On se connaît pour le coup, on va pas se mentir, on fait du théâtre d'impro ensemble, voilà.
Exactement.
Comme ça tout le monde sait tout. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite?
C'est une très bonne question. Quand j'étais petite, je voulais faire journaliste au tout début, jusqu'à longtemps, jusqu'à faire un stage à France Bleu Gascogne et m'apercevoir qu'il fallait quand même sacrément improviser quand on était journaliste et que ça serait pas mon truc. D'où le fait que je fasse du théâtre d'impro aussi, d'ailleurs.
Ok, ah, énorme. Ah,
ouais,
c'est
donc
chouette,
finalement, ma tante me disait la dernière fois, finalement, tu reviens un peu au métier de journaliste que tu voulais faire au début, ce qui n'est pas tout à fait faux.
Ah, c'est chouette ça, très cool d'être revenu à ses premiers amours, envie de dire. Ah,
bah, surtout cool. L'agriculture plus que le journalisme.
Ouais, clairement, tu vas nous dire un petit peu tout ça, d'où ça vient. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait comme études? Parce qu'en fait, là, tu parles de podcast, on parle un peu d'agriculture, mais tes 10 premières années, on va dire, plus ou moins de boulot, on était clairement pas là-dedans.
Non,
on était pas
rien
du tout dans
voir.
Un champ.
Rien à voir. Non, bah, j'ai fait ma classe prépa à Bordeaux, ici au lycée Montaigne. Ouais. Ensuite, je suis allée à ce qui s'appelait avant l'ESC Toulouse, donc Toulouse Business School maintenant. Yes. Et suite à ça, je suis partie à Paris. J'étais responsable marketing du site e-commerce de Total pendant 4 ans. Mmh. Je faisais de la vente de fuel en ligne.
Oh, et ensuite, chouette.
Ouais. Non, le pire, c'est que j'ai kiffé. Et ensuite, je suis passée du fuel au parking pour travailler chez OnePark, qui était une start-up qui faisait de la réservation de parking en ligne et qui propose notamment les parkings d'hôtels autour des gares et des aéroports à des très bons tarifs, amis aux amateurs bordelais.
Elle fait encore la pub,
c'est
beau.
Oui, je les adore.
Et alors, qu'est-ce qui t'a fait switcher il y a à peu près 2 ans, hein, si je ne m'abuse. Même si t'es encore bossé chez OnePark jusqu'en début d'année, c'est ça,
ouais.
Ou fin d'année dernière?
Ouais, fin d'année dernière.
Donc, tu l'as dit, aujourd'hui, on a le podcast La Clé des Champs. J'invite tout le monde à aller l'écouter. D'ailleurs, moi, ça fait partie. J'écoute plus souvent La Clé des Champs que le Pompon. Et je me dis heureusement en même temps parce que je m'écoute jamais, donc tant mieux. Qu'est-ce qui t'a lancé sur la route du podcast, j'ai envie de dire, et puis qu'est-ce qui a amorcé ce changement, en fait?
Alors, ce qui l'a vraiment accéléré, c'est le confinement, comme beaucoup de monde. Ouais. Mais en fait, donc je l'ai dit, du coup, j'ai passé 8 ans à Paris. Et moi, à la base, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mes grands-parents sont agriculteurs au Pays Basque et en Chalosse, dans les Landes. Ouais. Mon père travaille à la Chambre d'agriculture des Landes. Donc même si, je ne vous mens pas, je suis la citadine de la famille, c'est pas à moi qu'on dit d'aller chercher les vaches quand je rentre le week-end. Mais ça n'empêche que j'ai toujours grandi dans ce milieu. Ouais. Et quand je suis partie à Paris, je me suis aperçue qu'il y avait une vraie incompréhension entre monde rural et monde urbain, et que alors que mes collègues, ils sont hyper sympas, c'est des gens brillants, il y a des choses qui étaient très naturelles pour moi, qui n'étaient pas du tout pour eux. Mais ce qui est normal, hein, puisque les agriculteurs aujourd'hui, c'est 1,5% de la population active, 1,5% de la population totale, pardon, et 3% de la population active. Ouais. Et du coup, il n'y a plus personne qui a un agriculteur dans son entourage. Et donc, forcément, on se pose plein de questions sur comment est produite notre alimentation, la vie, la mort animale, le bien-être animal, etc. Et donc, ça faisait un moment que je me disais, il y aurait un truc à faire. Ouais. Et le confinement confinement est arrivé, donc j'ai dit One Park, parking de gare, aéroport en Europe. Bon, je fais pas un dessin. Chômage partiel à 10%, donc je travaillais une demi-journée par semaine pendant le confinement.
Ah oui,
et donc, je me suis dit, j'étais confinée dans les Landes au milieu des pins, j'étais pas à plaindre, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je vais pas rester comme ça, je vais disjoncter en cours de route.
Ouais.
Et un matin, je me lève, pour te dire pourquoi, mais je me dis, vas-y, je vais faire des podcasts d'agriculteurs, ça a jamais été fait, je vais leur donner la parole, on les entend pas assez. Le traitement médiatique de l'agriculture aussi, c'est souvent soit tout noir, soit tout blanc, toujours en 3 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Alors que l'agriculture, c'est complexe, c'est une affaire de compromis et on peut pas la comprendre comme ça en claquement de doigts.
Ouais.
Et donc voilà, ça m'a pris comme ça. Donc là, j'ai commandé le matériel, j'ai fait une formation de podcast en ligne, j'ai fait mes 3 premières interviews en visio. Pour démarrer quand même et pas attendre de sortir du confinement.
Ouais.
Et après, c'était parti. Je suis allée chez le premier agriculteur, Jean Basta, mi-mai 2020.
Ouais.
Voilà, et là, j'ai trop kiffé. Je suis repartie de la ferme. C'est ouf. J'ai vu des vaches, 3 vaches, j'étais trop contente. Enfin, même d'échanger, de réapprendre tout ça, de me reconnecter aussi avec mes racines. Donc voilà, et là c'était parti, j'ai plus arrêté.
Yes. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a combien d'épisodes exactement?
Je dois être à une 60aine, je pense, puisque j'en sors un tous les 15 jours, partout en France. Donc bon, pour pas te mentir, ça colle plutôt avec mes vacances. Alors on part en Camargue, je fais 3 épisodes en Camargue, on part en Corse, je fais 3 épisodes en Corse. Donc voilà, parce que d'une part, quand là ça y est, on racontera ce que je fais maintenant pour gagner ma vie, mais avec le podcast, on gagne pas forcément sa vie, donc c'était une manière de joindre l'utile à l'agréable.
Ouais.
Et puis aussi, c'est une manière... c'est de faire du tourisme, quoi. On est reçu par les agriculteurs et on a la visite guidée de l'exploitation. Là encore, c'était dingue. On a passé l'après-midi avec chacun d'eux. T'es dans la cuisine avec la famille corse et tout. Tu te dis, mais j'ai rien à faire là, normalement, mais je suis là. Donc, voilà.
Ouais, trop chouette. Et bon, on va revenir sur tout ça parce que je suis sûr que t'as plein d'anecdotes à nous raconter sur les enregistrements de podcasts. Parce que moi, pour le coup, on a une personne en commun sur nos podcasts respectifs parce que tu m'as suggéré d'interviewer Jean Barrère, Louyan de Burros.
Un personnage.
Un gascon. Un bon gascon, un personnage extraordinaire en couleur qui parle beaucoup.
Oui.
Moi, j'ai fait un épisode de 2h05 avec lui, donc il parle vraiment. Et c'était vraiment génial. Encore merci pour le coup, pour cette recommandation. Et ouais, donc j'imagine que tu as plein de belles histoires à nous raconter. Je reviens un peu sur à la fois le début du podcast et donc en parallèle, tu bosses chez One Park. Et à quel moment tu te dis en fait, je vais vouloir en faire mon activité principale, plus ou moins. Et tu l'as dit, on gagne pas forcément de l'argent avec ça. Donc, à quel moment tu te dis, OK, enfin, all in, quoi?
Ouais. En fait, du coup, je suis restée 1 an et demi au chômage partiel à 50%.
Ouais.
Donc, en fait, j'ai fait 50% parking, 50% la clé des champs pendant 1 an et demi.
Mmh.
Et le switch, ça a été quand mes chefs, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, Louise, on va repasser à 80 et à 100%. Et moi, à 100% parking. Et Dieu sait que j'ai tellement appris chez One Park et je me suis éclatée. Vraiment, ça peut paraître bizarre de s'éclater sur du parking, mais l'aventure humaine, j'avais rejoint l'aventure, on était 10, ensuite on était 60 dans 8 pays en Europe et tout, c'était incroyable. Mais là, j'étais passée à autre chose, 1 an et demi à aller voir les agriculteurs. Moi, c'était pas possible autrement. Donc, du coup, on s'est mis d'accord sur une date de sortie. J'ai eu la chance d'être très soutenue par mes chefs. Et donc, on a fait ça à moyen terme pour que, on me trouve mon remplaçant, que ça se passe bien. Et donc là, j'ai décidé que je tentais l'aventure. Mon conjoint aussi a eu, Manu, que tu connais, a eu sa mutation. Il est prof de PS. Donc, il a été muté à Bordeaux en même temps. Enfin, tout s'est
bien goupillé.
Super bien goupillé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, allez, go, c'est le moment de tenter l'aventure. On verra où ça me mène. Okay. Mais j'ai envie de la tenter.
Yes. Et pour le coup, ça te mène dans de beaux endroits pour le moment.
Ouais. On va y revenir, pour l'instant, je regrette pas.
C'est trop chouette. Dans les personnes que t'as interviewées, et j'ai aussi envie de parler parce que l'idée, toi, c'est quand même vraiment de faire ce lien entre la campagne et la ville pour le coup. À quel point tu l'as dit un petit peu, mais on a perdu ce lien et l'image de l'agriculture, là aussi, tu l'as dit, n'est pas forcément hyper positive. Enfin, ça dépend, en fait. Ça dépend
en fait,
de ouf.
Mais en fait, on n'aime pas l'agriculture, mais on adore nos agriculteurs.
Ouais.
C'est ça tout le paradoxe. Tout le monde connaît un agriculteur chez qui il va chercher son truc et qu'il adore.
Mmh.
Et, sauf qu'après, l'image qu'on en a, des fois, elle n'est pas toujours très positive. J'ai plein de choses à dire sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une erreur du monde agricole pendant longtemps, c'est qu'ils n'ont pas communiqué. Ils ont décidé que pour vivre heureux, ils vont cacher. En plus, à l'après-guerre, la priorité, c'était de manger. Du coup, honnêtement, tout, tout a été fait tout azimut pour produire à bloc pour l'autosuffisance alimentaire de la France. Mmh. Voilà, et à ce moment-là, je pense qu'il y a des erreurs qui ont été commises, notamment dans l'utilisation des produits phytosanitaires, où à l'époque de mes grands-parents, il y avait un problème, un micro-problème sur un bout de champ, et on arrosait tout le champ de pesticides, quoi, pour faire simple. Schématise, mais j'ai un peu l'impression... ça ne concerne que moi, ce que je suis en train de dire, et c'est suite aux 60 agriculteurs que j'ai vus, et les études... Je travaille au moins entre 2 et 3 heures avant chaque épisode, pour connaître les productions, pour orienter pour faire l'interview au mieux. Donc mais ça reste mon opinion personnelle. Mm-hmm. Donc il y a eu quand même cette erreur du monde agricole de pas communiquer et puis à un moment de pas s'être posé les questions de l'impact de ce qu'il faisait sur l'environnement, mais parce qu'à ce moment-là, il était, je pense, à 10 000 lieues de ça, c'était pas la priorité, fallait bouffer, il y avait ces produits, c'était magique, ça poussait tout seul. Voilà.
Mais comme plein de monde, enfin tu vois, comme tous les consommateurs, je pense.
Oui, ou comme l'industrie, le logement, à un moment, le logement, on a construit tout azimut, c'est pareil, après on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait. Bon voilà, même combat. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai le sentiment que dans l'opinion publique, on est resté sur cette image de l'agriculture d'il y a 30 ans maintenant. Mmh. Sauf que le métier d'agriculteur, et moi, c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est qu'il n'a plus rien à voir avec à l'époque, quoi. Ouais. Enfin, maintenant, moi, je suis hyper admiratif parce que les agriculteurs, c'est des entrepreneurs, c'est des chefs d'entreprise. Ils se retrouvent, vraiment des entrepreneurs à gérer leur compta, les champs, la communication, le commercial. Mmh. Et puis maintenant, quand tu gères des champs, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus complexe qu'avant parce qu'effectivement, il va quand même falloir produire davantage parce que la population mondiale augmente. Mmh. Donc ça, c'est une réalité. Les terres, elles ne sont pas extensibles. Mmh. Donc il faut produire plus avec les mêmes terrains et en améliorant l'impact et même en ayant un impact positif sur l'environnement. Ouais. Enfin, le challenge, il est monstrueux. Et je rajoute, en vendant à des prix accessibles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous, notre pouvoir d'achat, il est important et on a toujours envie de s'acheter la tablette et de partir en vacances. Et l'alimentaire aujourd'hui, et c'est un fait qui est constaté, c'est la variable d'ajustement. C'est-à-dire que là, on le voit, le bio est en net recul. Le prix du lait bio est passé en dessous du prix du lait conventionnel parce que les gens n'ont plus les moyens de mettre l'argent dans l'alimentation. Et c'est là qu'ils rognent en premier lieu. Donc, le challenge des agriculteurs, il est monstrueux et je trouve qu'il mérite d'être soutenu là-dedans et en tout cas qu'on prenne le temps de comprendre leur métier et de comprendre la complexité du truc. C'est pas juste il y a qu'à tout faire en bio. Oui, on l'aurait fait depuis longtemps si c'était juste ça. C'est qu'il y a quand même tout cet écosystème qui est très complexe. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de montrer. Ouais. Et ce qui veut dire que quand j'interview les agriculteurs, je vais leur poser les questions qui fâchent. C'est pas de montrer une version positive du métier, c'est de leur donner la parole. Pourquoi tu utilises des produits phyto? Combien d'eau tu utilises? Pourquoi t'en utilises? Pourquoi t'amènes tes animaux à l'abattoir et qu'est-ce qui se passe, comment tu le ressens tout ça. Et j'ai envie justement, parce qu'un des torts aussi, c'est que les marques, donc les agriculteurs n'ont pas communiqué, les marques se sont emparées de la communication des agriculteurs et on montre aux consommateurs l'agriculture qu'on aimerait voir, c'est-à-dire les 3 poules dans le jardin et 4 carottes. Et ça revient en boomerang, parce qu'après les gens, quand ils découvrent comment ça se passe vraiment, forcément on ne peut pas leur en vouloir, ça fait 10 ans qu'on leur sert une agriculture toute mignonne, toute gentillette, mais quand on n'est que 1,5% de la population à produire pour tout le reste, on a 2 solutions. Soit on accepte qu'on produise en grande masse parce qu'il faut qu'on mange, on n'a pas le choix. Soit il faut tous qu'on s'y file et qu'on reparte dans les campagnes et qu'on prenne des fermes. Et je crois que ça a été calculé. Il faudrait en moyenne entre 15 et 20% d'agriculteurs, que le 1,5 passe à 15 ou 20%. Donc le challenge, il est monstrueux.
Clairement.
Mais tout ça, il faut qu'on l'ait en tête quand on parle d'agriculture. On ne peut pas faire des raisonnements simplistes. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais vraiment en parler 2 heures.
Ben oui, non, mais ça s'entend et ça se voit pour le coup, mais ça s'entend, tu parles avec passion et tu défends tout ça et c'est assez chouette. Et justement, dans toutes les personnes que t'as reçues, tu retiens quoi? C'est quoi le message qu'ils font passer? Alors j'imagine qu'ils sont différents parce que j'y reviendrai encore après, mais t'as reçu on parle d'agriculteurs, mais t'as reçu un kiwiculteur, t'as reçu quand t'allais en Corse des producteurs de clémentines, de châtaignes, des éleveurs, des personnes qui font du foie gras, t'as aussi reçu le ministre de la culture, rien que ça, le patron de C'est qui le patron justement, t'as vraiment reçu...
Oui, c'est les acteurs du monde agricole que j'interview, c'est pas que les agriculteurs.
Ouais, et alors globalement, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu retiens de tout ça là aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort en fait? Est-ce que justement on a l'impression, même tu vois pendant le Covid, t'en parlais en intro, c'est à ce moment-là que t'as lancé le podcast et que beaucoup de personnes se sont lancées juste sur le podcast justement. On a eu, je trouve, ce côté on va consommer local quoi, on va consommer des produits. Alors moi pour le coup, à titre perso, je le fais, mais c'est aussi une sorte de luxe, mais parce que j'aime bien manger et je fais attention à ça, mais c'est loin d'être le cas de beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui? C'est quoi alors j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un seul de message, mais en gros, il doit y avoir une globalité?
Oui, je crois que quand même, je ressens un peu de ressenti chez les agriculteurs de tout ça, des fois d'être, tu vois, jugé entre guillemets sur ce qu'ils font, parce que c'est des mecs qui travaillent dur quand même. Moi, en tout cas, j'ai un mode de vie très parisien, bordelais parisien, je sais pas comment on l'appelle, mais à 8h du mat, j'ai du mal à me sortir du lit. Je démarre à 9h, on fait du théâtre, je fais du sport. Voilà, tu vois. Ouais. Et eux, quand même, ils ont des quotidiens qui ressemblent pas à ça. Alors, on va pas les plaindre, hein. Ils sont des gens qui sont passionnés, ils aiment ce qu'ils font, ils sont les plus heureux comme ça, mais ça n'empêche qu'ils s'y filent. Et des fois, je pense que c'est un peu dur pour eux de voir l'impact, la communication parfois négative qu'il peut y avoir sur leur métier, même si je pense qu'ils extrapolent les choses, puisqu'il y a des sondages qui sont sortis, hein. 80% des gens soutiennent les agriculteurs, ont confiance dans les agriculteurs, donc c'est toujours pareil, et c'est pareil sur tous les sujets, tu as une minorité qu'on entend souvent, mais ça les atteint, et ça a été quelque chose qui m'a surpris quand les premières fois où j'y suis allée, de voir à quel point ça les atteignait. Et après, quand ils pensent, c'est logique, c'est ton métier, tu te donnes corps et âme, financièrement, c'est pas toujours évident, c'est dur, tu joues avec le climat. Tu vois, je le disais, c'est des entrepreneurs, mais c'est encore plus dur parce qu'ils maîtrisent pas leur prix de vente, pour la plupart, parce que c'est les grandes surfaces qui les fixent avec les transformateurs et les agriculteurs, ils subissent un peu ça. Et après, ils jouent avec le climat. Ouais. C'est-à-dire que quand tu montes une boîte, t'as toujours des facteurs économiques, t'as des choses qui sont changeantes. C'est pas le climat, quoi. Le climat, alors là, il y a eu des épisodes de grêle il y a 10 jours. Le château Labelle, Cyril, c'est un producteur d'Armagnac, en 15 minutes, toute la récolte est anéantie. Pendant un an, il n'aura pas de revenus. Et la saison prochaine encore, en fait, ça va s'étaler sur 2 ans, ces pertes. Dans 2 ans, ça sera pas beaucoup mieux. Et donc, c'est quand même des métiers durs. Donc, en plus, tu ajoutes à ça, des fois, un peu de ce qu'ils appellent d'agribashing, même si je pense que ça reste à la marge. Mais en fait, ça les impacte quand même.
Normal, en même temps. Oui. Enfin, c'est clairement normal. Et justement, dans tout ce que tu as fait, alors je ne les ai pas tous écoutés, je te l'avouerai, j'en ai écouté quand même quelques-uns, qu'est-ce que tu retiens, ou est-ce que tu en as quelques-uns à nous partager là, ou vas-y, raconte-nous des anecdotes, parce que j'imagine qu'il y en a
plein, mais tous j'ai kiffé à chaque fois y aller, j'apprends plein de choses et puis je garde du lien avec eux, donc ça c'est le truc qui me motive vachement. Mais non, j'en ai parlé, le premier chez qui je suis allée, c'est que reste un souvenir. Marion Ossiniri aussi. Marion, elle est bergère en Vallée d'Aspe. Et en fait, l'été, elle monte en estive avec ses brebis. Il trait 400 brebis à la main matin et soir. et puis, si tu veux, quand je suis montée là-bas, et donc à cette époque, moi, j'habitais à La Défense, à Paris. Et j'arrive
changement
là-bas. Ah ouais, c'est ouf. Et en fait, ils sont heureux, quoi. Ils sont hyper heureux. Genre, toute sa famille, elle a des ados. Ils ont, la plus grande, elle a 18 ans maintenant. Elle a un peu plus de 18 ans. Mais en fait, elle reste dans les montagnes avec sa famille. Et les deux garçons qui sont un peu plus jeunes, c'est pareil, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça ouf. J'ai aussi un éleveur de bison où je vais chez lui, et Mathieu, et en fait il nous donne rendez-vous à 7h, donc ça c'est mon grand malheur avec les agriculteurs, ils te donnent tous rendez-vous à des heures que moi j'estime pas possible, mais eux ils ont eu 4 vies avant, donc si tu veux t'arrives à 7h et le mec il rentre de l'abattoir, il a déjà tué 4 bisons, tu vois, et toi t'es là, je suis vraiment une feignante. Après, le ministre de l'agriculture, forcément,
ça c'était
incroyable que les équipes du ministre m'appellent pour me demander interview de monsieur le ministre, déjà.
Ah ouais, c'est eux qui sont venus vers toi.
C'est eux qui sont venus vers moi,
Énorme.
Ils m'appellent, et ils me disent, madame, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce que vous accepteriez d'accorder un entretien à monsieur le ministre?
Bon, écoutez, je vais regarder mon agenda.
Ma mère, elle me dit, t'es sûre c'est pas un canular? Je crois pas, maman. Et voilà, et ça c'était incroyable, se retrouver dans le bureau de Julien de Normandie. J'ai eu plus d'une heure d'entretien avec lui, donc ça m'a demandé énormément de travail. J'ai bossé plus de 3 semaines. Pour le coup, je me suis beaucoup appuyée sur les agriculteurs pour qu'ils m'aident à identifier les sujets clés, à construire l'interview et tout ça. Mais ça aussi, c'était fou, quoi, de me retrouver au bout de 8 mois. Ça faisait 8 mois que j'avais le podcast en face du ministre pour faire un interview. C'était, c'était cool. Donc voilà pour quelques anecdotes.
Trop chouette. Et alors tu l'as dit, tu gagnes pas forcément ta vie avec la clé des champs, en tout cas le podcast. Mmh. Parce que la clé des champs, c'est pas qu'un podcast maintenant.
Et oui, depuis la semaine dernière, ce n'est pas qu'un podcast. Ouais. En fait, mon objectif, c'est de vraiment rendre l'agriculture accessible et d'aller plus loin dans cette pédagogie. Le faire écouter la voix des agriculteurs, c'est bien, mais j'avais envie d'aller plus loin. Et donc là, j'ai décidé que la clé des champs serait un organisme de formation. Donc là, le premier produit que j'ai lancé, c'est des formations pour les entreprises. Mmh. Donc toutes les entreprises qui travaillent dans l'agroalimentaire, les banques, les assurances, les coopératives, qui travaillent en fait au contact des agriculteurs ou des produits agricoles, qui travaillent tous les jours. Par exemple, je prends quelqu'un du marketing chez Danone qui travaille tous les jours avec les yaourts, mais qui n'a pas eu la chance d'aller dans une exploitation une journée, voir la vache laitière, discuter avec un éleveur. Et voilà, et donc je me suis dit, tout le monde a des parcours maintenant similaires, hein, comme moi, prépa, école de commerce, on n'a plus d'agriculteurs dans l'entourage. Y a quand même des sujets d'incompréhension entre aujourd'hui l'agroalimentaire, les agriculteurs. Je me suis dit que peut-être j'avais quelque chose à faire là-dessus. Mmh. Et donc j'ai mis en place des formations en deux volets. Donc une partie de formation sous forme de vidéo à regarder à la demande, où j'ai réuni des experts de l'agriculture française. Donc ça ne vous parlera pas, mais je vais dire les noms pour que ça fasse bien. de l'INRAE, de l'INAO, des présidents de chambres d'agriculture, des directeurs de recherche, etc. Donc qui racontent l'agriculture. Et une fois qu'ils ont regardé ces vidéos en ligne, ils partent passer une journée à la ferme chez un agriculteur de manière à voir en pratique qu'est-ce que c'est d'être agriculteur. Mmh. Et je vais partager le revenu de la formation avec l'agriculteur qui reçoit les apprenants. Parce que ça, c'est une de mes motivations aussi, c'est de réussir à capter de la valeur et de la redistribuer aux agriculteurs. Parce que... En fait, les entreprises, effectivement, le consommateur, il veut toujours le prix le plus bas. Mmh. Donc, c'est pas toujours facile d'améliorer le revenu des agriculteurs si tout le monde doit manger derrière toute la chaîne de valeur. Hein. Donc, faut pas se mentir, il y a quand même un sujet là-dessus. Ouais. Et donc là, c'est aussi une manière pour les entreprises, par un biais détourné, d'améliorer un peu le quotidien de certains agriculteurs. Et puis, j'espère de beaucoup d'agriculteurs à un moment. Ouais. Donc, voilà. Et donc là, c'est la première formation que je lance. Mais après, j'aimerais lancer des formations pour les particuliers, pareil, pour qu'ils aillent passer la journée à la ferme, pour des gens qui veulent se reconvertir aussi, qui puissent mieux comprendre le parcours d'installation pour être agriculteur, aller faire des stages chez les agriculteurs. Donc voilà, l'idée, c'est un peu d'aller vers là, après avoir fait écouter l'agriculture, de la faire vivre et d'amener les gens dans les fermes.
Yes, trop chouette.
Voilà, en essayant de gagner ma vie.
Oui, dans l'idée aussi, ça peut être intéressant.
Oui, ça peut aider.
Ouais, complètement. Ah, mais génial, ça donne trop envie d'aller effectivement. Enfin, moi, la seule expérience que j'ai pu faire jusqu'à présent qui était assez conséquente, c'est effectivement d'aller voir Jean Barrère, d'aller découvrir l'élevage de vaches landaises et pour les courses landaises et de taureaux aussi, parce qu'il y a quand même trois taureaux. Et donc voilà, de vivre vraiment l'expérience. En plus, moi, alors pour le coup, Jean, au-delà de ça, c'est le personnage en lui-même.
C'est le landais.
C'est le landais, quoi, exactement. Puis c'est aussi toute l'histoire, la transmission de la culture là, qui ajoute aussi quelque chose au-delà de ce qu'il fait. C'est vraiment toute la transmission de la culture qui est assez chouette.
Mais là, tu mets quand même le doigt sur quelque chose, c'est que j'ai un gros enjeu de bien choisir les agriculteurs qui vont recevoir les gens dans les fermes. Parce qu'il faut quand même être dans une démarche de pédagogie, il faut être dans une démarche d'entendre les critiques, d'y répondre tranquillement, d'ouverture d'esprit. Donc voilà, la formation, elle laissera un super souvenir à l'apprenant si l'agriculteur, tu vois, il joue le jeu à fond, etc. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que maintenant, les agriculteurs, ils savent que communiquer, ça fait partie de leur métier. Ouais. Et la nouvelle génération, ils sont vraiment friands de ça. Ils ont envie de montrer leur travail, ils ont envie de montrer ce qu'ils font. Ils me disent, j'ai envie de montrer la vraie vie, tu vois. Genre, c'est vraiment ce qu'ils disent.
Donc, ouais, ils ont raison. En même temps, c'est la full transparence. Je crois qu'il n'y a que ça qui paye entre guillemets aujourd'hui, quoi. Mais trop chouette. Et tu fais, t'animes aussi parfois des tables rondes et des conférences, c'est ça? Alors dans ce milieu-là, j'ai envie de dire, dans le milieu de l'agriculture, là, si tu peux nous en parler un petit peu.
Bien sûr. Du coup,
excuse-moi de te couper, t'es un peu devenue une porte-parole en fait au final. j'exagère un petit peu, mais au final, alors moi, forcément, je suis ce que tu fais, et c'est vrai que t'interviens souvent, mais c'est chouette en même temps, parce qu'ils ont aussi besoin de quelqu'un qui sait communiquer.
Oui, en fait, je ne sais pas s'ils ont besoin de quelqu'un qui sait communiquer, mais j'ai la chance d'être, de me sentir bien dans les deux mondes.
Ouais.
D'avoir un mode de vie très citadin et en même temps d'être très attachée à mes racines. Je t'ai envoyée chez Jean Barrère, ce n'est pas non plus un hasard. J'ai vraiment, il y aurait un IGP Lande, je serais estampillée IGP Lande. Moi, j'ai vraiment toute l'état de la landaise. Mais, bon, voilà, ma valeur ajoutée pour moi, c'est celle-là. C'est de comprendre ce qui se passe dans le monde agricole et de réussir à le traduire pour que ça soit accessible et sympa à regarder pour les citadins. Et après, si un jour les agriculteurs, c'est trop important pour moi que les agriculteurs ils cautionnent ce que je fais. Et c'est pour ça que dès que j'ai un projet, l'interview du ministre, là, mes formations, j'ai appelé 7 ou 8 agriculteurs du coup, que j'ai rencontrés dans le cadre du podcast pour qu'ils me disent qu'est-ce que t'en penses, comment tu ferais le truc. Si je travaille avec Danone, que j'envoie les gens, est-ce que tu le prends bien, est-ce que tu trouves ça bien, est-ce que tu trouves ça pas bien, parce que voilà, on sait l'image que des fois ça peut avoir. Et donc ça, c'est si le jour où les agriculteurs cautionnent plus ce que je fais, vu que moi je suis pas agricultrice, j'ai aucune légitimité, ce que je fais n'a plus de sens.
Ouais, carrément. Voilà.
Mais donc tout ça pour dire que oui, du coup, j'anime des conférences, des tables rondes sur des problématiques agricoles. La dernière fois, tu vois, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, ils avaient organisé 2 jours pour les Parisiens qui veulent se reconvertir. Mmh. Donc là, je vais m'occuper de faire venir des agriculteurs témoigner, je vais animer la table ronde. Yes. Voilà, je fais le petit package complet pour que ça soit sympa.
Trop chouette. Je pense qu'on l'a un peu entendu, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ?
Ce qui m'anime, moi, c'est l'humain. C'est ce que je disais avant, on en discutait un peu, mais c'est pas tant de faire le podcast. Ce podcast, c'est une excuse pour rencontrer du monde. Même de passer la journée sur l'exploitation, tu l'as vécu avec Jean Barrère, mais je l'ai dit pour la Corse, mais c'est pareil pour tout. Enfin, je repars de là à chaque fois, j'ai une énergie de ouf, quoi. Je me dis, c'est bien. Et puis aussi, ça fait sens pour moi, parce que ma grand-mère, j'ai la chance qu'elle soit toujours en vie, elle a 94 ans, ça a été vraiment une agricultrice, par la force des choses, elle s'est retrouvée veuve très jeune, et donc elle a fait partie, avec Michou Marcus notamment, des femmes agricultrices qui ont été chefs d'exploitation, parmi les premières, quoi, et donc moi je trouve ça hyper cool de faire, mon père est à la chambre d'agriculture des Landes, je trouve ça marrant de revenir, tu vois, et de faire à ma manière, quelque chose pour le monde agricole. Je serais jamais agricultrice, je sais rien faire de mes 10 doigts, vraiment je suis pas hyper manuelle et tout, mais je trouve cool de faire un truc et que ma grand-mère tu vas dans le salon chez ma grand-mère, t'as mes articles de Sud-Ouest qui sont placardés, tu peux pas me louper. Énorme. Quoi, tu vois, et je trouve ça trop mignon, ça fait sens pour moi en tout cas.
Ouais, clairement, trop chouette. Et t'aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent, qui ont parfois cette petite voix qui leur dit allez vas-y et qui franchissent pas encore le pas?
Ouais, d'être agriculteur ?
De se lancer dans quelque chose qu'on a envie de faire.
Ah, de se lancer. Je trouve que c'est d'échanger beaucoup avec des gens qui font déjà ce métier.
Ouais.
Donc, et ça vaut particulièrement pour l'agriculture, parce que des fois, et même pour tous les métiers, on peut les idéaliser, on peut voir juste le bon côté. Et c'est bien de discuter avec les gens qui sont déjà dedans, qui ont les mains dans le cambouis, pour savoir c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, et savoir où on va, et être humble par rapport à tout ça. Quoi. Se dire, faut que j'aille à la rencontre des autres, qu'ils me disent, en fait, que j'entende, et après qu'on se fasse son opinion et qu'on se dise c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi, ça c'est propre à soi-même. Mais de bien avoir tous les tenants et les aboutissants du métier, je trouve que c'est hyper important. Et pour ça, y a rien de mieux que d'aller boire un café ou un verre avec quelqu'un pour qu'il raconte.
Exactement, on est bien d'accord. Ce n'est pas moi qui vais lire le contraire. est-ce que on arrive tranquillement à la fin de cet échange, même s'il aurait pu durer des heures et des heures avec tout ce que tu as à nous raconter. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou un mot de la fin? Je ne sais pas, voilà, je laisse la parole ouverte.
Ouais, non, si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur lacledeschamps-podcast.fr.
Yes.
Je fais ma petite promo.
Ouais.
Et puis voilà, et puis surtout qu'ils écoutent les agriculteurs parler, quoi. C'est ça que je trouverais important.
Complètement. Voilà. Et puis qu'ils aillent les voir après.
Ouais, exactement. Quand
c'est chouette.
Souhaites.
Exactement. Louise, merci.
Merci surtout à toi.
Beaucoup.
C'était trop cool.
Et à très bientôt.
Oui, à bientôt.
Ciao. Merci à tous pour votre écoute. Je suis hyper content d'avoir reçu Louise. C'était un chouette échange. Je vous invite maintenant à aller écouter son podcast La Clé des Champs pour découvrir justement tous ses profils et comprendre un petit peu mieux le milieu de l'agriculture française. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon. Et surtout, d'ici là, consommez local, faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Allez, à très vite.